Bonsoir, c'est Supersonic sur France Culture. Rupture, choc, soyons radicaux ce soir. On ira jusqu'au bout de l'idée, jusqu'au bout de l'envie et jusqu'à minuit. Les machines ont leur culture, la culture a ses machines, et au milieu, des fois, il y a un petit cœur qui bat et qu'on entend tout bas. Salut les androïdes, bienvenue à vous. Soyons radicaux, oui, et fermons les yeux. Tout à l'heure, on parlera d'un jeu aveugle pour les smartphones à écran sombre. Un défi où le son est forcément fondamental et totalement immersif. On en parlera donc tout à l'heure avec une partie de l'équipe qui a produit la chose. Attention, c'est un jeu estampillé France Culture, on vous expliquera pourquoi. Mais tout de suite, ils sont là, ils sont deux, ils sont couple, ils descendent quasiment de l'avion et en même temps, ils sont en train de jouer Bach to Sodom au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris dans le cadre de la Nuit Blanche. Ça, c'est du don d'ubiquité. Ils sont là et multiples, Ruth Rosenthal et Xavier Klein, alias Winter Family. Bonsoir à tous les deux, Ruth Rosenthal, Xavier Klein.
Bonsoir.
Le Winter Family, ce duo, une des plus belles productions artistiques que le mariage de la Lorraine et Israël ait pu donner. Vous arrivez de Tel Aviv, vous vous êtes installé. Winter Family, pour qui ne vous connaîtrait pas encore, je donne quelques mots-clés. Théâtre documentaire, musique expérimentale, orgue, voix. De la Weird Wave, j'ai lu ça, vous vous auto-définissez comme ça,
non,
Weird
en
Wave,
fait, c'est
non
un, c'est un,
c'est une c'est ultra
un,
sensible.
Un booker qui nous avait défini comme ça, que je trouve que finalement ça nous allait.
Oui, Weird Wave, lourde, saturée et politique, même, j'ai lu.
Aussi.
Et plein de choses qui s'agrègent, qui évoluent, qui avancent. On s'était vu il y a quelques années maintenant, à l'époque de Red Sugar, qui était un de vos albums. Et puis là, autre mot-clé, autre titre, No World. No World, qui est à la fois le titre d'un livre aux éditions d'Ivoire, accompagné d'un CD, dont on va entendre un extrait dans quelques instants, et puis du théâtre documentaire, sous ce titre-là, No World / FPLL. C'est le titre complet quand il s'agit de ce qui se passe sur scène. Et il y a un point de départ, je crois, pour ce No World, c'est Brooklyn, Ruth Rosenthal.
C'est le point de départ où nous, on a commencé la recherche. Après, la pièce elle-même n'est pas du tout sur Brooklyn, mm-hmm. mais sur notre monde à nous, mm-hmm. qui est aussi à Brooklyn comme à Paris et comme ailleurs. Mm-hmm.
Mais le point de départ, on va dire, de l'écriture, de la captation, notamment des sons, c'est Brooklyn.
Oui.
Ouais, il y a beaucoup de sons du paysage sonore du non-monde, quoi, qui est un peu incarné par New York, finalement. Et voilà, donc beaucoup de sons ont été pris là-bas. Ouais.
Comment vous êtes retrouvé à Brooklyn?
En fait, on a eu un bourse de Villa Médicis sur le mur pour faire cette recherche. Mais on a resté et on habitait, travaillé, parce que ça nous intéresse.
Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé à Brooklyn qui a fait que vous êtes resté plus longtemps que cette résidence qui
était
prévue ?
D'abord, on a découvert la communauté française. Moi, j'ai découvert l'entraide communautaire, qui n'est pas très présente en France. Mais finalement, on se retrouve dans une diaspora française, ça c'est intéressant. Du coup, dans le sens entraide, où on nous a prêté un van pour travailler. Donc on faisait des déménagements, quoi. Donc en fait, on a pu rester comme ça jusqu'à ce que notre visa s'épuise et puis qu'on rentre. Quoi.
L'entraide communautaire, je crois que vous étiez beaucoup en contact avec la communauté haïtienne, non?
Oui. C'est ça?
En fait, on n'était pas en contact, mais on habitait dans les quartiers haïtiens, donc un contact direct et frontal d'immersion. Ouais.
Et notre fille était dans une école haïtienne parce qu'ils ont parlé un petit peu français pour le début, c'était bien. Et du coup, oui, on s'est trouvés, voilà.
Et alors l'écriture de No World commence de quelle manière quand vous êtes là-bas? C'est une écriture sonore, c'est une écriture d'image, c'est une écriture, une inspiration qui est laquelle?
En fait, c'était là-bas l'écriture d'image et sonore, et puis quand on rentrait, on a commencé à travailler au 104, on est artiste associé au 104, en fait, donc il nous a beaucoup permis de travailler dans des studios de répétition, etc., dans des temps assez longs. Donc on faisait des allers-retours.
Un grand espace, le 104, dans Paris, qui est à la fois un lieu de spectacle, un lieu de répétition, un lieu de
donc
théâtre.
Donc il y a des studios de répète, voilà. Ouais. Donc on avait accès à des studios de répétition quand on rentrait. En fait, c'est né beaucoup, je trouve, du choc entre un monde ultra-libéral, donc assez communautaire, que ce soit haïtien ou français, etc., ou israélien. Et le monde étatique français, qui est absolument, enfin, presque l'antipode, mais avec beaucoup de points de jonction, finalement. Et deux mondes qui fonctionnent, finalement. Mm-hmm. Et c'est ça, en fait, qui a donné un peu, je pense, le no-world, le non-monde, quoi.
Ce non-monde, alors qu'on voit donc sur scène, on donnera les dates tout à l'heure, mais notamment fin décembre à Paris, justement, au 104. Mais il y a ce livre, alors là, voilà, on comprend l'esthétique de ce No World qui est, est-ce qu'on peut dire, mash-up, cut-up, collage, résonance de références pop aussi, beaucoup, qui sont réutilisées, reprises, retrouvées
dans le talent. Ouais, en fait, c'est la résonance de notre vie quotidienne, en fait, qui est la plupart de cette vie passe devant Internet. En fait, qu'est-ce que on n'a pas dit, qu'au début, les recherches commençaient inspirées par une idée de géopoliticien.
De la géopolitique, c'est ça.
Jean Gutmann,
qui
a écrit sur l'iconographie et circulation. Mm-hmm. Et donc, en fait, finalement, aussi l'idée iconographique d'aujourd'hui, et donc l'Internet.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est l'image qu'on nous donne, qu'on nous impose, qu'on subit parfois du monde qui est peut-être le non-monde?
L'iconographie liée à la circulation, elle est clairement établie avec des fonds d'écran, par exemple, que ce soit un journaliste à France Culture ou un barman haïtien à Brooklyn. Je pense que vous avez le même Mac et le même fond d'écran, finalement. Et vous avez des chances d'avoir à peu près le même meuble IKEA aussi, finalement. Donc tout ça, ça pose des questions, voilà, quoi, qui ne sont pas forcément négatives, mais c'est juste intéressant à observer. C'est l'iconographie globale, quoi.
Représentée dans No World, dans une esthétique basique, qualité MP3, impression déjà vue pour capter le flux, mimer la nausée, célébrer le simulacre.
Oui.
C'est comme ça que vous le présentez.
Bah, c'est ça, en fait, l'image, cette iconographie qui est une simulacre. Donc ces images, ils parlent d'eux-mêmes et on les connaît, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est très mondial. Et facilement, on peut les critiquer. En même temps, pourquoi les critiquer alors qu'on est tous là-dedans, quoi. C'est notre vie quotidienne. Donc voilà, c'est ça. En fait, on écrit « Célébrons les simulacres » parce que c'est ça qu'il y en a, en fait.
Mais est-ce qu'on se pose la question, quand on part dans ce type de travail, parce que la question du détournement, de l'image pop, par exemple, par exemple dans la bande-son de No World, il y a le Gangnam Style que vous reprenez, qui est repris, qu'on retrouve, il y a des échos, enfin, ce qui est effectivement l'exemple, ces dernières années, peut-être le plus frappant de pop mondial qui circule dans tous les sens. Est-ce qu'on se pose la question de ce qui a été déjà fait dans ce sens-là? C'est-à-dire que le détournement de l'image pop,
exactement,
elle est au moins aussi vieille qu'Andy Warhol, grosso modo.
Oui. Complètement, ouais, complètement. Mais c'est justement que on les détourne pas tellement, on les détourne un peu, mais on les donne comme il est.
Voilà. En fait, dans le spectacle, on le diffuse en intégralité, donc on le détourne pas. On le fait subir au spectateur dans des bonnes conditions d'écoute. C'est un morceau qui est très long et qui est redoutablement bien fait. Quand on écoute en détail le mix, ce mec est absolument génial dans la manipulation. Je trouve assez optimiste, quoi, des masses. Ça doit être un mec assez drôle, quoi. Et il y a des gimmicks incroyables tout le long du morceau pour qu'on soit en attente du prochain riff, etc. Et en même temps, c'est une torture, évidemment, pour un public de théâtre qui est assez jouissif à observer, se faire torturer. Même ça, voilà.
Et c'est aussi c'est une pièce de musique, enfin, c'est un morceau de musique rarement on l'écoute sans l'image. Donc c'est ça aussi, voilà.
Ouais.
Laissons écouter ce truc, parce qu'il est là, parce qu'on l'écoute tout le temps, parce qu'il est autour de nous, voilà. On lui donne l'endroit et on l'écoute.
Puis c'est tout sauf une critique, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est justement, on s'en amuse, mais c'est tout. On est là-dedans, nous-mêmes, on écoute Niam Niam aussi, on met aussi notre fille devant un ordi quand on a besoin de bosser.
C'est tout sauf une critique, Xavier Clel, mais en même temps, si on écoute un extrait de la bande-son justement de No World, qui, notamment le CD qui se trouve dans le livre édité par D'Ivoire, il y a quand même des collages, il y a quand même des choses qui superposent, il y a quand même quelque chose qui est dit, et voilà, écoutons quand même, donc on en parle, on va écouter un extrait, on va se plonger dans un long extrait de No World par Winter Family.
Antipsychotique neuroleptique qui s'appelle l'Oxapac, qui a pour but de vous calmer, de soi-disant vous mettre dans un état un peu secondaire pour ne plus penser à vos soucis. Alors au départ, il m'a été prescrit à petite dose 5 gouttes par soir dans le but de me faire dormir. Et comme il provoque des effets secondaires, sur moi il a provoqué des tics nerveux, genre déambulation involontaire. J'en prenais 5 gouttes par jour. 5 gouttes tous les soirs. Et cataraxe, le valdoxan, c'était l'antidépresseur qui a pas réussi. J'ai pris 15 jours. Quand je l'ai revu, elle m'a dit, bon, ça marche pas, on change. Parce que moi, quand on me prescrit quelque chose, je le prends. Dépamil 300, un quart de l'exomil le matin, un cérestadis, un demi zolpidem. Et au repas du soir, à nouveau, un dopamine, puisque j'en prends 2 par jour. Et alors
Donc je suis devenu intermittent du spectacle. Technicien, pas artiste. Je dois faire le bon score en 10 mois. Je préférerais, il y a un truc un peu chiant dans l'intermittence qui est... C'est-à-dire que tu te vois vachement plus vieillir en fait quand tu fais ça. J'ai cessé d'être indépendant, ce qui c'est un terme qui est à prendre au propre comme au figuré, puisque quand on est intermittent, quelque part on arrête d'être indépendant dans le sens où on court après le renouvellement du statut.
Bien, mesdames, messieurs, je voulais accueillir personnellement Angela Merkel, qui vient à Paris. J'étais allé dès le 15 mai à Berlin, et nous sommes aujourd'hui à la veille d'un Conseil européen important. Nous avons déjà bien travaillé, il y a eu des progrès, et notamment sur la croissance, qui a été l'objet de nombreuses discussions qui ont abouti. Le Conseil européen aura en décidé. Nous sommes aussi conscients des mesures que nous devons préparer pour la stabilité financière. Et nous voulons, l'un comme l'autre, approfondir l'union économique, monétaire et demain politique pour arriver à une intégration et à une solidarité. L'intégration autant qu'il est nécessaire, la solidarité autant qu'il est possible. Voilà l'esprit qui nous caractérise au moment où beaucoup regardent l'Europe, qui doit affirmer sa cohérence, sa force, son unité et sa solidarité.
Zu empfangen in Paris. Ich selbst war ja am 15. Mai in Berlin. Wir stehen am Vorabend eines wichtigen Europäischen Rates. Wir haben schon sehr gut gearbeitet. Wir haben Fortschritte gemacht, was das Wachstum anbelangt. Zu diesem Thema hat es sehr viele Diskussionen gegeben. Und morgen wird der Europäische Rat, morgen über muss der Europäische Rat sich zu diesem Thema äußern und entscheiden. Und wir werden auch wir sind uns bewusst, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, was die finanzielle Stabilität anbelangt und was die Vertiefung, und das wollen wir, die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion anbelangt und danach im Anschluss auch vielleicht einer politischen Union. Wir sind dafür, so viel Integration wie möglich, wie notwendig und so viel Solidarität wie möglich durchzuführen. Das sind die wichtigsten Schritte, die wir zu unternehmen haben. Wir wissen, dass ganz Europa auf uns schaut und wir wollen sicherstellen, dass der Zusammenhang, die Kraft und die Einheit dieses Europas auch in Zukunft gewährleistet sind.
Ja, danke schön. Ich möchte mich ganz herzlich für diese Einladung heute Abend nach Paris bedanken. Wir stehen in der Tat am Vorabend eines Europäischen Rates, an dem wichtige Weichen für die Zukunft Europas gestellt werden könnten, in einer ernsten Situation, aber einer Situation, bei der wir uns verpflichtet fühlen, die Zukunft Europas zu bauen mit einer starken und einer stabilen Währung, dem Euro. Wir haben Fortschritte erzielt bei der Gestaltung eines Paktes für Wachstum. Wir hoffen, dass das morgen beschlossen werden kann. Und wir werden dann über die politische Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion sprechen. Ich sage, wir brauchen ein Mehr an Europa und ich glaube, darin sind wir uns einig. Wir brauchen ein funktionierendes Europa, darauf schauen die Märkte. Und wir brauchen ein Europa, das sich gegenseitig hilft. Das ist der Geist, in dem wir arbeiten. Herzlichen Dank für die Einladung.
La
social-démocratie, c'est quelque chose de dur pour les enfants. Nous sommes à la veille, en effet, d'un Conseil européen d'une très grande importance pour l'avenir de l'Europe. La situation, il est vrai, est sérieuse et nous avons l'obligation de construire l'Europe forte et stable de demain. Des progrès significatifs ont déjà été enregistrés en ce qui concerne le pacte pour la croissance. J'espère qu'il pourra être adopté demain. Il s'agira ensuite de réfléchir à l'avenir politique de l'union économique et monétaire. Comme je le disais, il nous faut plus d'Europe. Il nous faut une Europe qui fonctionne. Les marchés attendent cela d'elle. Et il nous faut une Europe dont les membres s'entraident les uns les autres. Merci beaucoup.
Voilà un extrait. On s'est plongé dans ce No World proposé par Winter Family, qui sont les invités de la première partie de Supersonic ce soir, Xavier Klein et Ruth Rosenthal. La totalité, je crois, dure quelque chose comme 45 minutes. C'est un documentaire, on peut dire ça. Enfin, oui. C'est une bande son, pas exactement la bande son du spectacle, mais c'est la même matière. Et on est dans une forme de documentaire qui est, je disais radical tout à l'heure. Voilà, on est totalement dans une forme de radicalité. On entend, je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Angela Merkel parler aussi longtemps sans être traduite sur France Culture. Et on est dans une écriture absolument radicale avec du langage qui relève du cut-up, du mash-up, oui. De la superposition. Alors tout à l'heure, vous dites non, on n'est pas critique. Bon, mais quand on met derrière le son d'une conférence de presse, au loin, très discrètement au début, les trompettes du Festival d'Avignon, trompettes historiques du Festival d'Avignon, bon, bah, forcément, ça veut dire quelque chose.
Oui, oui. Ouais, on s'en amuse, ouais. En fait. Je pense qu'on s'amuse plus et on tord les codes. C'est plus de l'ironie. Finalement, sauf que bon, on fait de l'ironie sur un monde auquel on appartient nous-mêmes, c'est-à-dire une espèce de petite bourgeoisie culturelle française, etc., qui a beaucoup de mal quand même de s'autocritiquer et de, enfin, je veux dire, quand c'est sur des oligarques ou des choses comme ça, on a l'habitude, mais après si c'est sur nous-mêmes, donc Avignon, Hollande, etc., finalement c'est pas très méchant. En fait, c'est ce qui était intéressant pour nous là, c'est derrière Hollande et Merkel, il y a ça qui nous fait plonger dans une espèce de néant interne, comme quand on scrolle devant Facebook. Enfin, c'est une espèce de néant dans lequel on tombe, qui est assez doux. Ça va, c'est pas la guerre, c'est pas très grave. C'est pas non plus un tribun. C'est peut-être mieux ça qu'un tribun hystérique qu'on a déjà connu, etc. Et du coup, derrière, il y a les sons qu'on a enregistrés des buildings de Manhattan. Où on entend le son de la ville, en fait.
Il y a toujours l'espace à l'intérieur de ce documentaire.
Ouais, donc c'est ça, c'est la superposition, en effet, d'un autre vide, qui est le vide de l'ultralibéralisme, finalement, qui finit par un espèce de grand bruit urbain, qui finalement plonge les gens un peu dans le même genre de...
Rien.
De rien, quoi. C'est un bruit permanent qui est extrêmement...
Ça, c'est le bruit, c'est le buzz, celui qu'on connaît. Mais il y a par-dessus, régulièrement, des paroles récoltées, qui sont de l'ordre du témoignage, véritablement, oui. De ce que vivent les gens. Je pense à une aide à domicile qui aussi, raconte ce qu'elle vit au quotidien, combien elle gagne. Voilà, 800 euros, plus les frais de déplacement. Ben voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'elle termine, qu'elle raconte. Vous êtes allé les chercher où c'est, pourquoi, comment
C'est ma sœur, en fait, qui bosse dans les Vosges. Ouais. C'était aussi le choc des cultures où, en effet, j'interviewe un de mes meilleurs potes qui est intermittent à France 3.
Qu'on a entendu là.
Et c'est aussi pour dire, voilà, on est tous dans ce monde et en même temps, il y a des réalités qui sont tellement différentes entre nous-mêmes qui sommes intermittents et qui pouvons nous plaindre de choses et une aide à domicile qui gagne 800 par mois et qui peut se déplacer pour une demi-heure, c'est-à-dire 3 euros, et attendre dans sa voiture 2 heures le prochain vieux à nettoyer, etc. Les réalités sont... Voilà, c'était juste pour mettre tout ça un peu
aussi,
en vrac.
Parce que les choses, comme on les prend, le monde comme on les prend aujourd'hui, donc par Facebook, YouTube, n'importe, et il n'est pas hiérarchisé. Mm-hmm. Donc, si c'est comme ça, on peut vraiment il faut pas hiérarchiser rien, quoi. Mm-hmm. Il y a rien qui hiérarchise. Et du coup, la sœur de Xavier est de domicile ou Hollande et Merkel, c'est pareil. Et on parlait de critiques quelque part. Avant, on a fait un spectacle sur Israël, sur l'éducation israélienne, et c'était une espèce de cri, en fait, aussi d'infos, peut-être pas hiérarchisées, pas des choses qui, en fait, c'est une cri qui sort de qu'est-ce qu'ont vécu comme enfant à Israël. Et celui-là, c'est un peu comme un vomi, en fait. Enfin, c'est un vomi après des années de recherches sur Internet, enfin, juste des trucs quotidiens qu'ils ont fait. En fait, on vomit tout ce qu'on...
Ouais, enfin, faut structurer le vomi, excusez-moi.
Oui, oui, on structure un petit peu, ouais.
Surtout pour en faire un spectacle, puisque ça devient un spectacle. No World FPLL, oui. Qui a été montré à Avignon, voilà, avec les trompettes, j'imagine. Et puis, qui va être donné du 7 au 11 décembre au Festival Temps d'Images au 104. À Choisy-le-Roi aussi le 4 décembre. Et à Marseille, à Orléans l'année prochaine, en avril et en mai, à Dijon aussi. Donc, ça va tourner. Et là, bon, c'est pas... Voilà, il y a du monde sur scène.
Oui.
Y a
justement, le spectacle n'est pas tellement structuré non plus, c'est pour ça que il y a peut-être un malentendu au niveau du mot spectacle où on nous a demandé pourquoi c'est pas plus structuré par exemple. Mais en fait, pourquoi structurer un spectacle, pourquoi faire semblant alors que finalement la personne qui me disait ça, il y avait son portable qui sonnait pendant qu'il me disait ça et que d'un coup son regard se trouble et il pense déjà à répondre ou pas au mec tout en me donnant un conseil. Et c'est normal, on est tous comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se concentrer plus de 8 secondes, donc le spectacle est sur justement un grand gouffre dans lequel on tombe, qui est pas très grave, encore une fois, c'est pas la Syrie, ça tout va bien, mais donc le spectacle est déstructuré aussi dans ce sens-là, où on essaie vraiment de faire plonger les gens, de recréer ce gouffre du moment où ton téléphone sonne et en même temps tu dois continuer la converse avec la personne en face de toi.
Et il y a un début, une matrice au départ, qui est une forme de conférence TED. C'est ça, ces conférences très, très normées, très, toujours la même forme, filmées, qu'on trouve sur Internet, et qui se font dans des grandes salles un peu partout, aux États-Unis, en Europe, et qui marquent, ce sont des questions sur l'innovation, normalement. Voilà, ça, grosso modo, c'est un petit peu ça. Ouais. Et vous commencez comme ça, le spectacle.
Oui, j'ai fait.
Vous avez un petit micro Madonna, comme ça.
J'ai fait une présentation de ces produits, parce qu'il y a des histoires de produits importants, enfin, produits culturel ou IKEA, c'est un produit qu'on consomme. Donc, c'est une présentation d'un produit incroyable qui est le monde. Donc, c'est le monde et on prend 9 chapitres, un peu anecdotiques. Enfin, voilà, on a pris 9 chapitres.
Qu'on développe pas vraiment, en
fait. Ouais, on développe un petit peu, mais pas vraiment. Et donc, encore l'idée de hiérarchiser, ne pas hiérarchiser. Et il y a encore un truc que je voulais dire, c'est aussi, on parle des archétypes des gens. Et en fait, dans ce monde, surtout ici, peut-être en Europe, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et nous, on voulait dire juste, voilà, disons-le, comme ça on peut continuer après. Voilà. Ces personnes-là, il est noir, cette personne-là, il est blanc, cette personne-là, il est juif, whatever. Enfin, voilà, on dit des choses. Et elle gagne 800 euros par mois. Et lui, il est intermittent. C'est pas génial. Voilà, juste dire des choses comme ça, c'est un peu infantile. Mais c'est juste pour le mettre sur la table, pour voir qu'est-ce qui se passe.
Alors, sur scène, vous êtes accompagné, Ruth Rosenthal, vous êtes avec... Il y a Guy Marquinan, qui est sur scène, qui est le patron du label Sub Rosa, qui avait été d'ailleurs, je crois, un des premiers labels. Votre premier disque, c'est chez Sub Rosa.
Les deux.
Les deux, les premiers. Mais lui, il se transforme en conférencier aussi.
Il est aussi conférencier. Oui, il fait des conférences sur la musique.
Guy Marc est l'idéologue du FPLL.
Oui, c'est dans ce spectacle-là.
Dans la vie. En
fait. Dans la vie. Et le FPLL, donc, le FPLL, un des L, c'est l'autarégie, j'imagine, c'est ça?
Oui.
Pour revenir, parce que l'autarégie, ça nous fait remonter quoi, à Charlemagne?
Ouais, ses enfants.
Petits-enfants.
En fait, c'était une proposition. Est-ce qu'on peut sortir du non-monde? Est-ce qu'on peut tenter un truc? Est-ce qu'on peut encore parler de géographie sans être tout de suite taxé de réactionnaire? C'est pas sûr. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Et donc, c'était juste créer un espace de... Le FPLL existe et c'est un mouvement qui n'a pas de visibilité, justement, Internet à dessein, qui est en Suisse, en Belgique, dans l'Est de la France, etc. Donc, c'est plus un... qui est aussi France Culture, puisque vous en êtes un membre...
On l'est sans demander la carte, si j'ai bien compris. On l'est ou on ne l'est pas.
Oui, c'est ça.
C'est comme on est sur le territoire ou on ne l'est pas. Je suis flatté, alors.
Et en fait, c'est un espace dans lequel on peut peut-être réfléchir à autre chose qui est basé sur une non-esthétique des biens, l'espace pavillonnaire européen, absolument inintéressant au niveau du paysage.
Et de parler de libération
Oui, mais ça veut dire parler de frontières, alors.
Oui, mais,
ouais, mais dans lesquelles tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de droit du sol ou de droit du sang, mm-hmm. C'est pas la question. Quoi. C'est, j'espère que c'est surtout pas la question.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire se rendre compte, promouvoir, parler d'un territoire qui sera avant tout un territoire mental, c'est ça? Mm-hmm.
Oui.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais,
mais
en
aussi
plus,
un territoire, un vrai territoire.
Avec des règles, avec des nouvelles, peut-être des nouveaux objectifs, etc. Est-ce que ça peut fonctionner? Pas. En tout cas, Guimard propose une conférence dans le spectacle. Le texte est repris dans la version anglaise dans le livre, qui est un peu le premier texte fondateur du FPLL.
Voilà. No World a pour refrain Life is Beautiful et évoque la possibilité d'une troisième voie, lotharingienne, échappatoire à ce monde qui like, qui share, qui partage et qui mange. C'est ça? Donc il y aurait c'est la partie de proposition, la partie optimiste du New World.
Oui, c'est ça.
Retrosental.
C'est opposition de ce monde-là, de nos mondes. Après, voilà, c'est New World qu'on parle. On parle pas de monde qu'on connaît pas, qui n'est pas. Enfin, on dit tout le temps c'est notre monde, mais c'est pas partout en fait comme ça. Il y a pas, c'est pas tout le monde pas like, share et mange. Il y a des mondes qui mangent pas, qui mmh. hangarent et qui souffrent vraiment. Mais ces mondes-là, on les touche pas, on les connaît pas. Ça fait pas, enfin, c'est sans doute lié à ces mondes-là et aussi le résultat.
On parle de nous-mêmes, donc.
Mais on parle de nous-mêmes, donc le monde qu'on connaît, qui existe.
Qui peut voyager avec un passeport, quoi.
Ouais.
Par exemple.
Morning love ice, where lonesome freezes all muscles down. We shall overcome knees and elbows or hearts that much refuse to bend down. We shall overcome eyes, so too much details, too much dust, and I'll lose their sight. We shall overcome glory. Running days with nothing good to do, nothing good to eat. We shall overcome big cities and wide streets. We shall overcome far mountains, big rivers, wild ocean, nature for summers and rain. We shall overcome waiting hours for my bed. We shall overcome waves of time. We shall overcome a gentle. We shall overcome Santa's lack of us with people inside giving you dangerous comfort. We shall overcome false dreams, long, lonely nights of needs. We shall overcome needs and enemies, a broken heart that takes years to recover. We shall overcome love. Deep in my heart, I do believe that one day. In my heart, I do believe that one day we shall overcome life, we shall overcome life, 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 we shall overcome life, life.
France Culture,
là.
Vous êtes à l'écoute de Supersonic de Thomas Baumgartner.
We shall overcome.
Cortelio Road, We Shall Overcome, sur Happy New Year, qui est le prochain album de Winter Family, qui sont les invités de la première partie de Supersonic ce soir sur France Culture. We Shall Overcome, c'est nous vaincrons, nous passerons l'obstacle, si c'est ça que ça veut dire.
Oui.
Et on peut difficilement entendre cette chanson-là sans penser à ça. John Baez,
oui.
Ruth Rosenthal, vous, évidemment, vous l'avez en tête quand vous chantez.
Oui, évidemment, oui. C'est peut-être la différence de qu'est-ce qu'on a pensé que We Shall Overcome dans les 60s, qu'est-ce qu'il faut overcome maintenant.
Mm-hmm.
Et c'est un peu une acceptance. Enfin, on n'a plus cet espoir, je pense, qu'on a eu peut-être mm-hmm. dans les 60s. Quoi.
C'est une manière de se souvenir de cet espoir-là, de chanter comme ça.
Non, c'est une manière de dire, voilà, on est toujours, il y a un truc à overcome.
Ouais.
Et dans les 60s, c'était vraiment avec un espoir pour overcome les guerres. Enfin, je pense que c'était la guerre de Vietnam.
Sans doute.
Et maintenant, je dis, we shall overcome life.
Ouais.
Voilà.
Xavier Klein, l'orgue, on l'a entendu dans Cotolu Road, il faut en parler de l'orgue, c'est votre instrument. Les orgues, tous les harmoniums aussi, enfin voilà, il y a toujours oui. cet intérêt, cette passion que vous avez pour cette résonance-là, celle de l'orgue.
J'ai pas trop le choix, parce que j'aurais bien aimé être guitariste, mais je perds mes cheveux, donc je peux pas.
Ah non, mais les cordes de la guitare, c'est autre chose, hein, c'est pas les...
Ouais, non, mais je vais sans doute me lancer dans une période de guitare, je pense, un jour, bientôt. Mais en fait... ouais, l'orgue. Ouais, je suis pianiste au départ. Mm-hmm. Donc forcément, la fréquence, le drone, les grandes orgues, l'harmonium. Voilà.
Et ça s'entretient comment? Vous avez la curiosité d'aller chercher des orgues différents?
En fait, là, ce qu'on entendait, c'était du Filicorda. C'est un vieil orgue Philips mm-hmm. des années 60. J'en ai plusieurs. Donc oui, ça s'entretient avec un électronicien...
Je parle de la passion, moins plus que de la machine. En
non,
fait.
Mais justement, ça en fait partie.
Ouais.
Parce que faut les entretenir. C'est du vieux matériel rempli de. C'est des petites cathédrales électroniques, donc ça s'entretient. Un peu comme on peut avoir un rapport privilégié avec un accordeur quand on est pianiste, on peut avoir un rapport privilégié avec un électronicien. Jean-Marc Giffard, par exemple, qui est un mec assez génial et qui est OK pour perdre du temps à plonger ses mains dans des machines pour qu'elles sonnent. Comme à l'époque.
Ça a commencé comment, cet intérêt-là, pour les premières fois, la main sur...
En fait, je cherchais un orgue qui pouvait me donner autant de fréquences harmoniques que des grandes orgues, en fait, et je suis tombé là-dessus chez un ami, il y a plusieurs années, où je me suis dit, tiens, enfin un orgue qui résonne, quoi.
Oui, mais vous, la première fois, vous avez dit, c'est ça, c'est mon domaine, le...
c'est un hasard, en fait, j'ai une tante qui a les clés d'une église à Maxéville et en Lorraine, et qui me prêtait les clés pour que j'aille jouer la nuit dans des états personnels. Donc du coup, quand on peut s'enfermer dans une église et faire des drones pendant 4 heures avec les deux mêmes notes, c'est difficile après de s'en passer. Quoi.
Cet album Happy New Year, avec ce titre-là, encore une fois, est-ce que c'est absolument pas ironique, c'est tel que ça vient, ou... C'est l'espoir dont vous parliez à l'instant.
Mais ça vient aussi d'un son. Ça vient au départ d'un son. J'ai enregistré la New Year's Eve à Times Square, en fait, où il y a 3 millions de personnes qui hurlent Happy New Year.
Donc
tout dans une réverbe, justement la réverbe des immeubles de Manhattan. C'est un son vraiment de l'apocalypse.
Avec une joie. C'est toujours ça. Ouais. Quoi. C'est pas vraiment une critique, encore une fois, mais il y a la joie de la fin, en fait, quelque part.
voilà, il faut l'aimer, cette fin du monde, parce que on le fait tous, donc voilà, il faut l'accepter, il faut l'aimer, il faut. Donc c'est pas vraiment cynique, c'est pas vraiment, c'est juste une.
C'est un constat, quoi. Mais en fait, ouais, puis encore une fois, pour venir à ce son, je crois qu'on est vraiment dans. J'encourage tous les gens à aller écouter le son, fermer les yeux, écouter le Nouvel An à minuit à Times Square. C'est le son d'aujourd'hui, quoi. Mmh. C'est incroyable, en fait, que l'homme ait réussi à faire ce son. Et donc, ce son est présent dans un des morceaux de l'album.
Mais en même temps, vous proposez, vous, une esthétique qui fait, enfin, je sais pas, l'identité même de Winter Family, c'est votre duo même, c'est-à-dire votre voix, votre Rosenthal, vos notes, Xavier Klein, et il y a un style qui est le vôtre, qui est inimitable, et tout d'un coup, qui est aussi une réponse à ça, c'est-à-dire contre ce son de l'apocalypse, à la fois joie, ivre, éthylique, début d'année, fin de quelque chose, vous proposez aussi une forme de beauté.
On propose un truc qui est personnel. Après, il vit dans ce monde-là. Mais comme c'est personnel, du coup, c'est, oui, opposé aussi au qu'est-ce qu'il y a. Mais ça, c'est normal. C'est pas beaucoup. C'est pas pensé, c'est juste très naturel.
Ouais, puis encore une fois, on fait absolument partie de ce monde. Enfin, déjà, tous les morceaux sont mixés sur un Mac, avec un fond d'écran. Le même, et on est sur une table Ikea. Enfin, on est tout.
Mais vous savez quoi, vous avez Klein, c'est beau quand même.
Viva on Manek. Risa imahit raka. Hashemesh nilchemet b'magen ha-bitachon shel ha-cheder sheli. V'ani zocha rak b'vrachat ha-chum shela. Ha-or mesachek machboim im ha-tzlalim. שירי הרשתית שלי מסננים את חוסר הצדק. מי שמה לי? מי עיוור אותי? עזק אותי בשרשרת כבדה מזהב ויהלומים. מחר לי תמונה של חלב ודבש. או שהייתי אני. בוחרת תמיד במפואר רק כי אני יכולה. זוכה לא לראות את הסבל, את חוסר המזל שנעשה על ידי עיוורים כמוני. כנראה שזאת הייתה אני בכל זאת, מתעלמת מהפשעים של עצמי. אני מתעטפת בשמיכה של שלום והולכת לישון.
Winter Family en disque, c'est donc très bientôt avec ce Happy New Year dont on a entendu là encore une fois un extrait avec Delightful Blindness, ce morceau donc qu'on retrouve sur cet album. Winter Family Dans Supersonic, bah, c'est ce soir, hein, on l'a compris, Rotrosenthal et Xavier Klein. Et puis sur scène, donc, avec No World FPLL, sur scène théâtre documentaire. Ça, c'est aussi une de vos signatures. Et puis ce livre chez Divoire, avec un CD à l'intérieur, No World, signé par vous, images et sons. On peut peut-être compléter ce qu'on disait tout à l'heure à propos de No World FPLL, la version sur scène, Rotrosenthal. On parlait de Guy Marquinan qui est sur scène, vous-même. Et puis
Mamadou Gassama. Breakdancer parisien.
Qui est le breakdancer.
Le breakdancer.
Mais vraiment, Mamadou Gassama, pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui. Parce que c'est un mec qui fait le tour du monde pour montrer sa technique imparable, qui est très old school. Il a pas mal traîné aux États-Unis quand il était gamin. C'est une comparaison un peu idiote, peut-être. Je suis pas sûr qu'il l'accepterait, mais c'est un peu le Joey Star du break. Mm-hmm. En fait.
Et puis Joanna Alit, une performeuse anglaise. Super drôle.
Qui vient super bien. Plus du Forum Théâtre ou du burlesque londonien.
Des cabarets.
Et donc à voir sur plusieurs scènes dans les semaines et dans les mois qui viennent, on l'a dit, donc au 104 à Paris début décembre, à Choisy-le-Roi un petit peu avant, et puis Marseille en avril, Orléans en mai, Dijon qui est programmé, et puis à Jérusalem-Pont-Durcy qui continue de tourner, qui était un de vos spectacles précédents.
Oui.
Qu'on va jouer à New York
en mars.
Et donc Happy New Year qui devrait arriver incessamment sous peu, peut-être avant la nouvelle année.
Non, je pense qu'on se prenne la tête sur les micro-détails. Et encore, je pense qu'il va sortir au printemps. En fait.
Au printemps, ça sera quand même une joyeuse nouvelle année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Winter Merci. Family. Restez. Alors en même temps, je sais que en parallèle du fait de cette ubiquité dont je parlais tout à l'heure, vous êtes en ce moment pour la Nuit Blanche au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme pour quelque chose qui s'appelle Back to Sodom. Mais en même temps, vous pouvez rester là pour la suite de l'émission. Il se trouve, vous avez des casques sur les oreilles, c'est très bien. Je propose à chaque auditeur de prendre soit ses oreillettes, soit un casque pour écouter la suite de l'émission. Casque sur les oreilles, parce que une partie de ce qu'on va entendre à l'instant, c'est du son, ce qu'on appelle du son binaural, du son en trois dimensions. Donc deuxième partie de l'émission, à écouter les yeux fermés. Si vous voulez, il va être question d'un jeu à jouer sur son smartphone et quasiment sans image. A Blind Legend, c'est le titre où Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle, et sa fille Louise partent à la recherche de la femme d'Edward, qui est aussi la mère de Louise, et qui s'appelle Dame Caroline. Et pour parler de A Blind Legend, et il y a avec nous Cécile Kéguinère de Radio France qui s'occupe des questions d'innovation sonore. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en duplex de Lyon, Pierre-Alain Gagne et Nordine Gachi de la société Dowino, à l'origine de ce Blind Legend. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on peut le dire quand même que ce jeu, ce A Blind Legend, est une expérience assez incroyable parce que, je ne sais pas si on peut dire que c'est un jeu pour les personnes non-voyantes, pour les aveugles, mais tout le monde évidemment peut y jouer et on a en face de nous quasiment un écran noir et... ça marche, c'est-à-dire que on avance à l'intérieur du jeu dans la peau de ce Edward Blake et on découvre une autre manière de jouer. Comment est venue cette idée déjà au départ? Est-ce que c'était l'idée de faire un jeu pour les non-voyants ou de faire un jeu, on va dire un jeu nouveau, Pierre Lagagne, Nordine Gachi?
En fait, c'est les deux. C'est les deux points de départ. C'est le premier de constater que le jeu vidéo est la première industrie culturelle. Mondial maintenant, devant le livre, le cinéma, etc.
Oui, devant le livre, je pense qu'on peut dire que c'est devant le livre, mais effectivement, oui. Des milliards de dollars, on parlait du grand flux culturel tout à l'heure, le jeu vidéo en fait largement partie.
Tout à fait, et en revanche, c'est le seul qui n'est pas, ou très peu, accessible aux personnes non-voyantes. On a les livres en braille, on a l'audio description, il y a plein de choses qui existent pour les autres médias, mais pour le jeu vidéo, il n'y avait que des initiatives très petite ou peu ambitieuse, en tout cas, on va dire. Et donc ça, c'était le premier constat. Et d'un autre côté, l'industrie du jeu vidéo a tendance un petit peu à recycler ses bonnes recettes et donc à manquer un petit peu de d'innovation et plutôt préférer proposer des versions des numéros 5, numéro 6, numéro 8.
Ouais.
De jeux qui marchent. Et donc du coup, bah, on s'est dit que ces deux choses permettaient d'envisager un jeu qui soit à la fois ambitieux, qui soit un vrai jeu pour les personnes non-voyantes, mais qui plairait aussi aux gamers traditionnels, parce que bah, une expérience sensorielle inédite et innovante par rapport à ce qui existe dans l'industrie du jeu vidéo. Donc voilà, ça a été ces deux constats-là. Et après, en termes d'idées, bah c'est Nordine qui a eu cette idée il y a quelques années maintenant, mais il va pouvoir en dire plus que moi.
Oui, mais Nordine, chez vous, vous êtes le game designer, c'est ça, de Blind Legend. Ça change énormément de choses. Il y a une chose qu'on appelle, je crois, dans le jeu vidéo, le gameplay, c'est-à-dire c'est la mise en jeu, la mécanique du jeu au sens large. L'absence d'image, vous, ça a dû vous remettre en cause pas mal de vos références et de vos habitudes en tant que game designer.
Oui, pas mal, oui. Effectivement, bon, le côté visuel, c'est déjà une aide. On a besoin de ce sens pour beaucoup de choses. On s'en rend compte quand on fait quelque chose d'interactif sans image. Et l'autre chose, c'est que au-delà de ça, en fait, quand on n'a pas d'image, on doit produire quelque chose pour compenser. Et donc, du coup, du son. Et beaucoup de sons, beaucoup de repères différents, beaucoup de narration, beaucoup de choses comme ça auxquelles il faut penser. Et c'est plutôt dans ce sens-là que ça a un peu tout bousculé aussi. C'est que c'est pas les mêmes schémas de réflexion sur un game design où on a tous les sens en action et sur un game design où on va focaliser sur le son et sur lequel il faudra plus du tout compter sur l'image. Ça, c'est aussi un des défis, hein. C'est de vraiment pas compter du tout sur l'image, du menu jusqu'à la sortie du jeu. Le moindre petit détail, en fait, on a vraiment fait attention à ça, même les crédits sont dictés en
à la voix. Enfin, voilà. Oui, mais ouais, bon, avant ça, il y avait Jean-Luc Godard dans Le Mépris qui avait donné ses propres crédits à la voix. Mais effectivement, là, c'est quand même rarissime. je vous enverrai le DVD. Ce qui est aussi assez fantastique, c'est qu'effectivement, on est guidé. C'est un jeu. Alors, il y a une quête, on a compris. Dame Caroline, hein, c'est ça, la femme d'Edward Blake. Edward Blake doit aller la chercher. Donc, une quête qui a 5 niveaux. Et on est guidé par la petite Louise, qui est la fille d'Edward Blake. Edward Blake étant aveugle lui-même. Et donc, on est guidé. Et je me posais la question si... Est-ce qu'il y a eu graphiquement un travail qui a été effacé après? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on avance grâce au son, on a cette impression-là évidemment, du fait de la quête aussi, mais on a tellement cette impression d'environnement que je me suis posé la question s'il n'y avait pas un plan graphique à un moment donné qui a pu être effacé.
Absolument pas, non. Je veux pas casser le rêve. Hein. Il y a une illustration en fait qui a été faite par Michael Cruzac, qui est cette illu qu'on voit un peu partout, qui est l'unique visuel finalement, la représentation subjective de cet artiste-là. Mais sinon, dans le jeu, il y a rien du tout qui a été fait au niveau visuel, si ce n'est des vrais niveaux en 3D qui ont une vraie géométrie, mais on est très très basique, quoi. C'est plus pour l'édition du jeu, quoi.
En fait, dans le logiciel qu'on utilise pour développer, qui est Unity 3D, qui est beaucoup utilisé pour des jeux en 3D, d'habitude, on va placer des éléments visuels du décor dans ce moteur-là, pour ensuite que le personnage navigue dedans. Et ben nous, en fait, on va placer des sources sonores dans ce moteur-là, et on va les placer à différentes distances, différentes intensités, en fonction de différents mouvements aussi, puisque c'est souvent des sons qui bougent. Et donc on place des sources sonores à la place des sources visuelles dans cet univers en 3D. Et donc nous, dans le logiciel, on les visualise entre guillemets uniquement avec un triangle orange pour une poule, un rond bleu,
oui,
pour un personnage. Enfin voilà, c'est uniquement pour pouvoir construire en fait le niveau, quoi.
Enfin, nous voici dans la citadelle royale.
Nous arrivons, mais nous allons vous sortir de...
Tais-toi, Louise. Nous devons être discrets pour nous faufiler dans le donjon et trouver ta mère. On vient, cache-toi.
Thorc a commandé 500 tonneaux pour le mariage avec sa nouvelle dame. Le donjon va regorger d'ivrogne ce soir.
Tu vois ton champère? Il est là-bas, derrière le marché.
Allons-y. Nous nous cacherons parmi la foule.
Alors dans Blind Legion, évidemment, il y a des moments, il y a des scènes comme ça, vécues par le joueur, par le personnage lui-même. C'est Cécile Guiguinière. Alors vous, vous êtes à travers Radio France, à la direction des nouveaux médias de Radio France, et notamment sur les questions d'innovation sonore. Alors comment vous avez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez repéré le projet avant qu'il ait été lancé? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est ça. C'est, en fait, je l'ai repéré quasiment par hasard, c'est-à-dire en fait, Dowino, donc qui sont là au téléphone, a lancé une campagne de financement participatif. À ce moment-là, a commencé à faire parler de ce jeu, et c'est à ce moment-là qu'on est tombé dessus, mais vraiment presque par hasard. Et en fait, il s'avère qu'à la direction du numérique, on s'intéresse de loin pour le moment au monde du jeu, en se disant que c'est un monde assez inconnu pour nous, mais en même temps qui est vraiment fertile en termes de création numérique, aussi bien au niveau sonore qu'au niveau interactivité, au niveau immersion, etc. Donc là, c'était un petit peu l'occasion qui faisait le larron, c'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit vraiment, il faut qu'on y aille. Parce que il s'agit d'un jeu et on a tout à apprendre de ça. Et puis il s'agit d'un jeu absolument sonore, 100% sonore, qui donc se fait. Alors c'est une technologie donc qui s'appelle le son binaural, mm-hmm. qui permet une totale immersion. Le son binaural, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ici à Radio France. Mais c'est vrai que dans le cadre du jeu comme ça, où il y a de l'interactivité, c'est-à-dire où l'auditeur qui est le gamer avance et interagit avec ce paysage sonore. Pour nous, c'était vraiment très nouveau. Et donc, voilà, il était évident qu'il fallait qu'on les accompagne, qu'on les aide et qu'on participe.
Mais en plus, on peut dire, évidemment participer dans le sens aussi où il y a ça, le savoir-faire en termes de fiction, parce que c'est une fiction aussi.
Il y a un réalisateur
de fiction qui a travaillé avec des comédiens.
Exactement. Baptiste Guiton, donc, qui est un des réalisateurs de fiction de France Culture, et qui nous a aidé à caster les comédiens, et puis qui a fait la direction d'acteurs. C'était pas évident, parce que c'est vrai que l'enregistrement des voix, donc là il a enregistré toutes les voix françaises, hein, puisqu'il y a aussi une version anglaise là, qui n'a pas été faite à Radio France. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'enregistrement des voix pour le binaural, on enregistre les voix les unes après les autres, c'est un petit peu comme faire de la 3D au cinéma sur un fond vert, quoi. C'est un peu la même chose.
Ça peut déstabiliser un peu les comédiens.
C'est pas simple pour les comédiens, effectivement, parce qu'après il y a tout un retravail de post-production énorme qui nécessite que chaque voix soit bien séparée les unes des autres. Donc il a fallu quand même effectivement faire un travail assez compliqué de mise en scène et d'acting. Voilà, et donc tout ça a été mené par Baptiste. Pour nous, c'était très important, parce que c'est vrai que, pour en avoir parlé avec des gamers, il y a énormément de jeux où vraiment le jeu des comédiens, parce qu'il y a toujours des vraies voix, on a l'impression finalement que ce sont des fausses, mais en fait ce sont des vraies voix, et souvent sont vraiment très très mauvaises. Je connais plein de joueurs qui coupent le son quand ils jouent.
En dehors du jeu, après, c'est ça que vous voulez dire. Ça met une distance d'un coup.
Oui, puis après, qu'ils sont mal joués. Enfin, voilà, pendant très longtemps, dans les jeux vidéo, on n'a pas tellement fait attention à la bande son, et donc le son était assez décoratif. Là, comme vous disiez tout à l'heure, ça fait partie du gameplay. C'est l'essentiel du gameplay, et c'est effectivement ce qui nous a vraiment intéressé.
Alors, Pierre-Alain Gagne et Nordine Gachy à Lyon, donc Dowino, votre société porte ce projet. Le produit, donc ça va être sous forme de d'application disponible donc sur les téléphones. Mais là, on peut se dire qu'effectivement, est-ce que vous l'avez pensé comme ça? Je sais pas. C'est le bon moment. C'est-à-dire que les gens ont quand même beaucoup un téléphone, beaucoup des oreillettes. Encore une fois, il vaut mieux avoir les oreillettes pour jouer correctement et être orienté par le son. Il y a une question technologique, et la technologie et l'envie de faire arrivent ensemble au bon moment.
Oui, je dis souvent timing is everything, et encore une fois, ça se vérifie. Après, nous, on a souvent un côté pragmatique dans la réalisation de nos jeux et de nos serious games, c'est de se dire, ok, on peut innover avec des Oculus Rift, avec plein de choses.
Ça, c'est des casques 3D visuels.
Oui, c'est des casques 3D ou avec des smartwatches ou des choses comme ça. Mais quel est le taux d'équipement? Quel est l'équipement aujourd'hui? Aujourd'hui où? Ou dans
les mois qui viennent, ouais.
Voilà, et donc du coup, en effet, là, l'idée, c'était de développer ça sur un équipement que tout le monde maintenant a dans sa poche, le smartphone. et avec et c'est souvent accompagné d'un casque, donc justement ça tombait très bien parce qu'en plus ça marche avec n'importe quel casque, donc le taux d'équipement est optimal pour nous.
La question essentielle, c'est une des questions essentielles avec le Blind Legend, c'est la question de l'interactivité sonore aussi, c'est-à-dire que il y a cette immersion du son, on a vraiment l'impression que le paysage est autour de nous quand on a le casque sur les oreilles et quand on avance dans le jeu et dans au sein des cinq niveaux, mais évidemment quand on oriente le personnage différemment, le son doit bouger aussi. Donc ça a dû poser une question technique et aussi de scénario, non, Nordine Gachi ?
Il y a beaucoup de choses, en fait, hein, dans ce que vous dites. Ça a l'air de rien, mais en fait, effectivement, on doit prendre en compte à la fois les contraintes d'écriture, le level design, c'est-à-dire la fabrication du niveau dans sa structure et dans sa difficulté, dans ce qui s'y passe, le gameplay, quoi, la façon de jouer, et le côté audio. Donc, le côté audio qui est super important, puisque au final, c'est ce qui va rendre justice aux trois étapes que je viens de citer précédemment. Donc, il y a un gros travail déjà de mixage qui est, si on parle par exemple de musique, quand on va commencer par créer un morceau, on va le composer en fait en posant des notes avec des instruments sur différentes pistes par exemple. Enfin, le level design, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va poser tous nos éléments pour créer cette scène-là, mais il n'y aura pas encore le mixage et le mastering quelque part. En fait, dans le jeu, ça s'est passé exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un level designer qui est ni mixeur, enfin qui n'a pas de compétences particulières en son, même si c'est super bien débrouillé, il pose tout et en fait, c'est Christophe Roth, ouais, je tenais à le citer, c'est vrai que c'est important parce qu'il a fait un travail monstrueux sur le projet et donc Christophe Roth qui est arrivé pour positionner un peu tous les éléments et créer toutes les petites scènes qu'il y a dans le jeu. Et tout ce qui s'y passe, y compris les combats, voilà. Et ensuite, on a eu Alexandre Roca, qui est donc pour nous un gros spécialiste du son 3D aussi et du son binaural, qui lui a attaqué tout le mixage. En fait, donc il repasse derrière, en fait, il reprend tous ses fichiers, toutes ses scènes, et il retravaille tout, il redéplace un petit peu les choses, il travaille sur des facteurs de distance, de perception, de chaque source sonore pour réussir à obtenir l'immersion maximum. Et puis en plus, il apporte une couche d'effets supplémentaires que personne maîtrisait, en fait, hein, ce qui était par exemple du B-format, quoi, que très peu de monde maîtrise a priori dans le monde, en fait, qui permet d'avoir une sorte de, enfin c'est comme du, enfin c'est du son binaural, mais bien particulier, en fait, qui permet par exemple d'avoir une source sur laquelle, quand on tourne sur soi-même, on va bien entendre les sons tourner, mais en se déplaçant vers cette source, enfin on peut se déplacer sans avoir l'impression de s'en approcher ou de s'en éloigner. Et c'est super important parce que ça permet notamment de gérer la météo. Parce que, en fait, quand vous écoutez la pluie, si vous fermez les yeux, que vous êtes sous la pluie et que vous l'écoutez, si vous tournez sur vous-même, vous allez entendre qu'il se passe quelque chose. Mais si vous vous déplacez, si vous commencez à marcher, vous n'allez pas sentir que ce son de pluie se déplace, en fait. Et à obtenir quelque part que la sensation de rotation, mais pas la sensation de translation, je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est un format particulier qu'Alexandre maîtrisait, en fait, et que les outils qu'on a utilisés avaient les capacités de les exploiter. Donc, en fait, on a vraiment exploité tous nos outils au maximum. Et puis après, des effets plus classique, mais quand même bien réglé, bien dosé, comme de la reverb par exemple, des choses comme ça, voilà, qui ont été mises en place pour obtenir cette immersion qui, on l'espère en tout cas, est plutôt bluffante.
Et ben en tout cas, on conseille à chacun de chercher sur les différentes plateformes de téléchargement d'applications Blind Legend. Pour les deux essentielles marques de terminaux mobiles, on trouvera donc Blind Legend signé Duino et France Culture. Merci beaucoup d'avoir.
À partir du 6,
mais c'est dans 3 jours, c'est quasiment tout de suite.
Oui, mais c'est pas tout de suite.
C'est pas tout de suite, c'est ce qui est guinéaire. Merci Pierre-Alain Gagne et Nordine Gachi. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce jeu, donc co-siglé Duino et France Culture. Et il y en a sans doute un peu plus sur franceculture.fr.
Tout à fait.
Merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de Supersonic ce soir. Il fut donc question de A Blind Legend signé Duino et France Culture. On a aussi parlé avec le duo Winter Family. Les dates, les liens, les compléments, on met tout ça sur le site de Supersonic sur franceculture.fr. Sur franceculture.fr, vous trouverez aussi la réécoute, le podcast et les commentaires. À noter aussi, puisqu'on parle de son immersif, de son en trois dimensions, la diffusion de la série Sur les bancs la semaine prochaine et la semaine suivante, juste avant midi, tous les jours de la semaine sur France Culture, avec des textes de Lewis Trondheim, de Tariq Nui, de Fanny Chiarello, d'Hélène Frappa, de Judith Meyer, entre autres, une série à écouter aussi sur des bancs dans des parcs de Paris, avec votre smartphone encore une fois, qui va travailler ces temps-ci pour une expérience de réalité augmentée sonore, et ce dès demain, plus d'infos sur le site surlesbancs.com. Supersonic, c'est Inès De Bruyne à la préparation et à la coordination, c'est Véronique Lamandeau à la réalisation, c'est Célia Dufour au son ce soir à Paris et Chantal Nouvelot à Lyon. Tout de suite, c'est demain et Limite France Culture. Bon week-end à vous et portez-vous bien.